Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Pour pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
J'ai essayé ainsi de retrouver les crimes, les mobiles, les joies, le plaisir et les déchirures qui ont constitué cette carte mentale de mes fantasmes. Avec l'espoir, si je n'ai pas fait fausse route, de donner sens à leur envahissante présence. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Océan, à l'occasion de la publication de son ouvrage « Dans la cage, une autobiographie socio-pornographique » dans la collection « Fauteuse de troubles » des éditions Julliard. C'est parti. Bonsoir Océan.
Bonsoir.
J'ai été évidemment interpellée par ton livre, parce que je pense qu'il t'a... tes écrits ont été précédés de quelques petites confidences. On m'a dit, oh, tu vas voir, c'est assez particulier, tu vas voir, ça crée la controverse, tu vas voir. Donc j'étais un petit peu... Il y avait du suspense autour de la lecture de ce livre. Et en effet, j'ai trouvé qu'il y avait matière à discuter. Ouais. Et en tout cas, qu'il avait sans doute demandé beaucoup de courage aussi à écrire ce livre.
Bon.
Non.
Je sais pas, on me dit souvent ça après. Oui, de courage, ben enfin, pas plus que... Enfin bon, non, je trouve qu'il faut pas beaucoup de courage pour écrire un livre, ça va, on reste assez planqué. Ça fait peur, forcément, ça fait un petit peu peur. Et en même temps, tout ce que je raconte, c'était vraiment des choses qui sont à la fois très intimes, parce que c'était le seul chemin pour parler du sujet des fantasmes. C'est très compliqué de généraliser, de parler au nous sur un sujet où il y a autant de variantes, on va dire, et de variations. Et donc, j'étais obligée de parler au jeu. Par ailleurs, je travaille comme ça. Et je sais depuis longtemps, parce que maintenant, ça fait longtemps que je fais des spectacles, des films et tout. Et je vois bien qu'en étant très sincère, très honnête, et du coup, en me livrant aussi beaucoup, je rentre en résonance avec les autres. Donc, finalement, il me semble que cette méthode est la bonne, en tout cas pour moi, et pour ce sujet encore plus que d'habitude, peut-être. Donc... oui, ça fait un petit peu peur, mais en même temps, je savais que ce que j'allais raconter, même si c'est mon histoire personnelle, finalement, c'est un parcours très stéréotypique, c'est un parcours très classique. C'est-à-dire, c'est juste, voilà, comment j'ai été confronté aux violences patriarcales, mais comme toutes les personnes sexisées, j'emploie plutôt le terme de personnes sexisées qui me convient mieux que femme ou sinon je suis pas vraiment dans le groupe des femmes maintenant, donc ou personne assignée femme, parce que du coup ça exclurait les femmes trans. Donc personne sexisée, c'est juste les personnes qui subissent du sexisme, et comme on parle de personnes racisées, et il me semble que ce terme que Juliette Drouard a proposé est très très intéressant et très juste pour englober un peu tout le monde, parce qu'il y a aussi des hommes qui se reconnaissent comme hommes, des hommes cis qui sont sexisés parce qu'ils sont pédés, très efféminés, et qui, voilà, en fait, l'homophobie n'est qu'une forme de sexisme. Donc, voilà, et du coup, ce que je raconte, encore une fois, est assez classique, et ces violences patriarcales, on les a tous plus ou moins vécues. Après, je dirais, sur une échelle de 0 à 10, voilà, on peut être plus ou moins haut sur cette échelle, mais c'est le même système, c'est l'organisation de notre société, l'organisation de cette domination masculine, finalement, et de cette culture du viol et de cette culture de l'inceste dans laquelle on a baigné, qui nous concerne toutes et tous. Donc, raconter mon histoire, c'était de toute façon venir raconter aussi l'histoire des autres, même si y a des variantes plus ou moins pénibles ou voire atroces. Mais en tout cas, c'est un même système, je pense, dans lequel on peut se retrouver.
Alors, je n'ai pas donné le titre complet ou même tout court, on va dire, de ton livre, donc je vais corriger cette erreur, cet oubli. Ton livre s'appelle « Dans la cage, une autobiographie socio-pornographique ». Il est donc publié dans la collection Fauteuse de troubles chez Julliard. Donc, c'est en effet pas anodin que de publier dans cette collection et dans cette maison d'édition. Ça, en plus, tu vas en faire quelques clins d'œil. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, tu vas bien noter que tu sais d'où aussi vient cette maison et qui elle a pu publier en amont. Donc, je parle de Maznef, notamment. Et moi, en fait, quand tu m'as fait envoyer le livre avec une dédicace, alors ce qui m'a énormément touchée, parce que ça arrive peu. Souvent, on les reçoit sans mots personnalisés. Et donc là, tu l'as adressé pour la librairie en disant « Ensemble, ouvrons toutes les cages
oui, ».
Et c'est vrai que, en fait, tout ton déroulé va nous amener en fait vers cette pensée-là, mais pas du tout dès le début, en fait. On va bien comprendre. Enfin, au début, en fait, quand je t'ai lu, de ce fait, ça m'a donné une autre idée de ce que j'allais lire. Et je me suis rendu compte qu'il a fallu tout un process qui, en fait, est toute ta vie pour arriver à cette ouverture.
Oui, oui.
Ce qui est quand même une façon aussi de présenter ta narration, c'est de dire que... Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai parlé de courage, c'est de comprendre qu'il a fallu, en fait, que tu ailles désosser, décrypter, enquêter dans tous les petits recoins des souvenirs que tu avais encore.
Ouais.
Et ce process-là, alors on entend, on lit que tu as une habitude peut-être d'une certaine forme de psychothérapie, psychanalyse, enfin toutes ces pratiques-là, en fait, d'aller chercher. Donc ça doit aider à se souvenir. Mais pour autant, ton travail, c'est... mis en place comment et sur combien de temps? Est-ce que ça fait vraiment longtemps que tu le travailles, ce livre?
Alors, déjà, bon, pour répondre par rapport à l'édition, c'est vraiment ma rencontre avec Vanessa Springora, parce que peut-être il faut préciser que cette collection Photos de Troubles a été lancée, créée par Vanessa Springora au sein de Julliard. Bon, pour moi, mon livre, je l'ai fait avec elle. Enfin, elle aurait été dans une autre maison, je l'aurais fait dans une autre maison. C'était vraiment la rencontre avec Vanessa qui a permis que ce livre s'écrive, parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'y pensais, ça faisait longtemps que ce sujet-là des fantasmes, avec un peu la question d'origine qui est, est-ce qu'il y a des fantasmes de femmes et des fantasmes d'hommes, et que je commençais à discuter avec des gens autour de moi, mais depuis, je sais pas, depuis mes 20 ans, en fait, tu vois, parce qu'on dit beaucoup les fantasmes de femmes, c'est pas la même chose et tout. Moi, j'ai toujours eu un petit doute que ce soit vraiment là que se joue la séparation, et bien avant de prendre conscience de ma transidentité, donc vraiment ça a rien à voir avec le fait d'être trans, c'est pas pour ça que je dis ça. Donc en fait c'était quelque chose que je réfléchissais depuis longtemps, et après on pourra reparler de le chapitre sur la pornographie, c'est voilà, cette relation à la pornographie, toutes ces questions là m'intéressaient, je me les posais depuis un moment et je trouvais pas grand chose là-dessus. J'avais pas lu en tout cas comme ça, j'ai pas eu accès en tout cas s'il y a des choses voilà de manière de simple. Et quand j'ai rencontré Vanessa, elle connaissait mon travail. Elle l'aimait beaucoup, et donc et moi j'avais beaucoup aimé le consentement, et je trouvais qu'elle était super, et donc je lui dis voilà, il y a bien un sujet qui m'intéresse et auquel je réfléchis depuis des années, et je lui ai un peu pitché cette idée. Elle m'a dit ben vas-y, viens, on fait un texte, c'est bien. Il faut le faire, et je l'ai fait parce que c'était avec elle. Et finalement tout ce truc, c'est pour ça que la question du courage et tout, je le relativise un peu, parce que j'étais avec Vanessa dans cette écriture en qui j'avais une immense confiance. C'était comme une safe place en fait pour écrire ce livre, et ses retours, même si j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle me disait, c'était pas forcément non plus voilà évident, mais en tout cas il y avait une confiance profonde, et je pense que c'est important sur un livre en effet aussi intime, avec un sujet aussi complexe aussi, et ce qui peut voilà qui peut faire peur, parce qu'en plus on est quand même voilà, moi je suis un militant féministe LGBT QI+, et forcément parler des contradictions, notamment sur la question de la pornographie, qui est un sujet explosif, où en plus il y a toujours des turfs et des anti-prostitutions qui n'attendent que ça nous tomber dessus pour bon voilà, pour nous attaquer, c'est vrai que bon, il fallait bien le faire en fait. Il fallait réfléchir, le faire de manière intelligente, et justement ne pas se cacher de cette complexité et de ce paradoxe qui est bah on passe nos journées à militer contre les violences, on est obsédé par ces sujets, on est enfin traumatisé globalement, je dirais à l'échelle individuelle et collective, par l'étendue de ces violences, pourtant pour certaines personnes, évidemment, encore une fois je ne généralise pas, mais en tout cas pour moi, et je pense pas être vraiment le seul, les seules images qui vont nous exciter vont être des images de domination ou de violence ou de viol, etc. Et donc comment vivre avec ça, comment comprendre ce mécanisme, et comment comprendre aussi la différence entre nos pratiques réelles, qui sont des pratiques qui sont axées autour du consentement, du soin, de l'amour, de la tendresse, enfin vraiment je pense qu'on est quand même, surtout quand on est travaillé par ces questions, très attentif au bien-être de l'autre et de soi dans nos pratiques sexuelles, et pourtant avec un imaginaire complètement en décalage est beaucoup plus trash et violent que ce qu'on fait en réalité. Et donc, c'était tout ça que je voulais démêler. Donc, c'est vrai que je me suis dit, il faut que ce soit comme une enquête policière où j'aille essayer de comprendre comment mon imaginaire sexuel a pu se constituer, c'est-à-dire vraiment repartir au tôt, quoi, dans ma vie, de retrouver ces souvenirs de voilà comment c'est construit, qu'est-ce que c'était pour moi la sexualité déjà dès l'enfance, comment j'ai compris ce que c'était la sexualité, quel message on m'a fait passer de manière consciente ou inconsciente, et comment ça a pu me constituer aussi. Et donc évidemment avec dans mon parcours personnel dans un milieu particulier qui est ce qu'on appelait la gauche caviar, c'est-à-dire un peu un milieu un télo de gauche comme ça, enfin qui se la raconte de gauche mais bof. Et bon, mais j'ai déjà fait un spectacle là-dessus donc je sais pas, mais et ou en tout cas il y a tout ce voilà cette relation aussi à la psychanalyse, à la vulgarisation en tout cas de la psychanalyse, et où on nous balance du complexe d'Oedipe en veux-tu en voilà, enfin complexe d'Oedipe pour les nuls hein, on va pas se mentir. Et c'est intéressant de se dire que c'est marrant que ce soit ce concept-là précisément de Freud qui se soit autant, qui a été autant popularisé parce que ça arrange bien tout le monde, surtout les agresseurs, c'est-à-dire de dire à toutes les petites filles « Ah bah ça c'est parce que t'es amoureuse de ton papa, oui mais lui c'est une figure paternelle donc c'est normal. » Et donc en fait tout est normal et c'est absolument évident que les petites filles sont amoureuses de, d'hommes adultes, donc en fait à un moment ça ressemble presque à un encouragement, alors même que je pense que Freud n'a pas dit ça, c'était un peu plus complexe, et que Ferenczi à la même époque, hein, parce qu'il y en a contemporains de Freud et qui sont très copains au début avant de se fâcher, enfin parle bien du problème de ce jeu-là et dit bien que les enfants viennent chercher de l'amour, de l'affection, de la reconnaissance et en retour des adultes, pas tous les adultes mais certains adultes profitent de cette demande d'amour pour mettre en place une relation d'abus psychologique, sexuel, etc. Et donc, rien que ce point de départ-là, c'est-à-dire de me souvenir à quel point j'entendais tout le temps parler de cette histoire de complexe d'Oedipe et cette banalisation finalement aussi des relations avec un grand écartage entre des jeunes filles et des hommes, tout ce truc-là dans lequel j'ai grandi qui était ouais, vraiment très... très normalisé en fait. Enfin, je me dis tiens, c'est intéressant à déconstruire parce que c'est fou de venir dire à des petites filles ou des jeunes filles, disons, que c'est normal qu'elles soient amoureuses d'hommes adultes alors même qu'elles ne le sont pas, et que ce qui va pas, c'est plutôt que eux désirent des jeunes filles. C'est ça qui est vraiment étrange, quoi. Pourquoi ils le font, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûrement pas ça que les jeunes filles viennent chercher. Mais comme en effet, moi, à mon époque, je pense que maintenant ça change un petit peu, mais on nous apprend tout le temps à chercher l'attention des hommes. On nous apprend tout le temps que c'est les seules personnes importantes. Alors, dans une famille, en plus, comme la mienne, c'est évidemment des hommes blancs, puissants, les hommes qui ont le pouvoir, en fait. Et on nous apprend fort, 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 comme on nous apprend l'hétérosexualité, enfin, comme on nous formate, on nous apprend que c'est eux qui sont importants, que c'est eux dont il faut chercher le regard. Et donc, évidemment, il peut y avoir une confusion très forte, et bon, bah, Vanessa Springora l'exprime très bien dans son livre, évidemment, et son histoire le prouve aussi, mais, et je trouvais ça intéressant, et en fait, et comment cette image-là, en fait, finalement, cette relation de pouvoir-là, et cette confusion dans la relation, pouvait ensuite constituer un imaginaire érotique, sexuel.
Mais avant d'arriver à cette construction de l'imaginaire érotique, si tu me le permets, on va rester un peu en enfance. Pas que ce ne soit pas l'endroit d'une construction, mais c'est-à-dire que on entend bien depuis le début en fait cette idée de l'implication en fait de la culture patriarcale, ouais. Et donc de ce lien de domination, etc., qui se faufile un peu partout. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a aussi beaucoup touchée en fait dans ton livre, c'est que directement les mots en fait que tu vas poser, ça va être honte et peur. Ouais. En fait. Si on se, pour beaucoup de personnes, en fait, et notamment les petites filles, le moment de la découverte des jeux masturbatoires dont tu peux parler, etc., c'est des moments en fait d'extrême honte et d'humiliation de la part aussi des adultes. Donc, avant d'avoir ce rapport-là, d'aller chercher l'attention, qui sera plutôt en effet dans ton chapitre sur l'adolescence, dans l'enfance, il y a quand même un truc très nauséabond de constamment, alors même que l'être humain est quand même constitué de cette possibilité-là de faire ou de pas faire sexe, mais en tout cas d'avoir du plaisir, etc., tout de suite d'être shamé, en fait. Et ça, c'est un endroit qui est difficilement, je trouve, déconstructible avec le temps.
Ouais, complètement. Et d'ailleurs, toute la question de la honte, le sujet de la honte traverse vraiment tout le livre, parce qu'ensuite ce que j'explique, c'est que donc il y a cette honte là très tôt de tout ce qui est sexuel, d'avoir en fait une libido, une sexualité, même si on la comprend pas quand on est enfant, mais on nous fait comprendre que ça il faut pas, ou qu'il faut cacher, ou voilà. Je raconte cet exemple qui est assez édifiant, qui, juste pour terminer sur ce que je disais de cette culture patriarcale et cette culture incestuelle, c'est quand je suis enfant, l'anecdote que je raconte dans le livre, je suis en robe de chambre, en chemise de nuit, je sais pas comment on dit, et j'ai les jambes relevées, donc en fait un adulte qui passerait au-dessus de moi pourrait voir mon sexe, et il y a ma mère, mon père et deux amis de mon père qui sont des hommes, et moi je suis très content, je suis là, c'est sympa, il y a un dîner, c'est la fête et tout, et puis tout d'un coup ma mère passe et très discrètement pousse mon genou et me fait un peu les gros yeux comme ça, et je comprends qu'en fait il faut que je cache mon sexe, et donc elle me transmet une forme de honte, ce que tout le monde trouve à priori normal, voilà, qu'un enfant doit pas montrer son sexe et tout ça. Et en fait, quand j'y réfléchis 40 ans plus tard, je me dis, mais c'est bizarre de mettre un coup de pression comme ça à un enfant, pour qu'il, comme si c'était pas bien ce qu'il faisait, c'est-à-dire d'être inconscient que son sexe pourrait être visible, alors même que la honte devrait être vraiment tournée vers les adultes et les hommes qui potentiellement vont être troublés par le sexe d'un enfant. Enfin, c'est vraiment ça le problème, en fait. C'est pas à l'enfant de se cacher. Et donc, c'est intéressant, je trouve, de voir comment très vite, très tôt, il y a finalement la responsabilité, l'action de la responsabilité qui est mise sur l'enfant, alors même que c'est vraiment un problème de responsabilité des adultes, parce que l'enfant, il fait rien de mal. Et ensuite, quand c'est attendu de nous qu'on ait une vie sexuelle à partir de, disons, l'adolescence, vers 15-16 ans, où c'est pas autant encouragé que chez les garçons, mais en tout cas chez les filles, c'est acceptable qu'on commence en tout cas à avoir une vie amoureuse, disons. À ce moment-là, moi, je découvre que je suis lesbienne, et donc la honte redouble, et donc ça continue. Et par ailleurs, c'est vrai que l'ouverture du livre, c'est ça, c'est comment moi, quand je suis adulte, au début de ma vie, pour le coup, amoureuse, avec des femmes, je suis avec une fille qui est plus vieille que moi et qui veut pas me raconter ses fantasmes, et elle pleure, et je vois qu'elle est traumatisée, en fait, par ses propres fantasmes. Et donc, je comprends que c'est des fantasmes de viol, sans avoir les détails. Et je me dis, mais c'est dingue de porter cette double peine, c'est-à-dire que déjà on vit ces violences-là, ou en tout cas on y est exposé, ou en tout cas la menace du viol est permanente, même si on ne le subit pas directement, mais il y a cette ambiance-là qui pèse sur nos épaules, et en plus on a une honte d'érotiser ces violences. Et donc je me suis dit, enfin j'avais envie aussi qu'on sorte, enfin c'est ça, c'est sortir de la honte, et c'est un peu, alors ça va évidemment dans la continuité du mouvement MeToo, etc., mais c'est pas un livre MeToo, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est pas tant ce que je raconte des situations, on va dire, craignoses que j'ai vécues, qu'on peut plutôt qualifier de grooming, c'est-à-dire d'un adulte qui me fait croire quand moi je suis ado, qu'on vit une histoire d'amour, alors que pas du tout, enfin, que moi, en plus, j'ai pas du tout voulu cette espèce de relation, sexualisée, en tout cas. À ce moment-là, tout est fait pour que, même encore quand on vit ces situations-là d'agression, de grooming, etc., on porte encore cette honte, et on porte en tout cas la responsabilité. On a l'impression qu'on est responsable dans cette relation qui, en fait, est une relation d'abus, purement et simplement. Mais voilà, non, je sais ce que je disais. Je disais que c'est pas un livre Me Too, dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est pas tant de raconter ces événements, parce qu'encore une fois, ils sont très, voilà, banals, malheureusement banals, je dirais. Mais justement, ils sont intéressants parce qu'ils sont banals. Et c'est pas des histoires extraordinaires ou incroyables. Enfin, je veux dire, c'est pas comme le livre de Neige Sino où là, t'es vraiment face à une histoire hyper lourde et terrible. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tant ces histoires-là, c'est ce que ça produit par la suite. Et c'est comment on peut penser son statut de victime quand, a priori, on ne s'identifie pas du tout. C'est-à-dire que moi, je m'identifie pas du tout comme victime, ni à l'époque des faits, ni après. J'ai l'impression que je suis pas du tout traumatisé, que voilà, bon, j'ai vécu ça, c'était finalement pas très agréable, mais c'est pas grave. Et puis voilà, j'ai pas eu de souffrance physique, j'ai pas eu de subite violence physique, donc ça va. Et en fait, c'est finalement en comprenant que les fantasmes que ces situations ont générés, que en fait, entre guillemets, je suis une victime. Et victime, c'est quelque chose de plus complexe. Et d'ailleurs, je me suis intéressé à ce que c'est qu'une victime, tu vois. Donc, j'ai été chercher des définitions un peu comme ça sur Internet, là, pour quand le livre est sorti. Et il y avait une définition, en fait, bah, dans la loi, enfin, la phrase exacte, je m'en souviens pas, mais c'est en gros, une victime est une personne qui a été passive et qui a subi un dommage de, d'une personne active. Voilà. Et donc, en fait, c'est marrant cette espèce de mise en opposition de passif et actif, parce que, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vis un truc de manière, enfin, tu sais pas trop ce qui se passe et tu crois que t'es, que t'as une agentivité, mais en fait, que tu n'as pas du tout. Et donc, en fait, t'es rendu passif et, avec quelqu'un en face qui, lui, est extrêmement actif. Et donc, c'est pour ça qu'après, enfin, on va en reparler sans doute, mais j'inverse ces rôles-là. Et je pense que le fantasme où on met en scène des situations de violence, qu'elles soient réelles ou imaginaires, en fait, c'est une façon de sortir de cette passivité, pour devenir le metteur en scène est donc actif et en contrôle. Donc en fait, remettre en scène une situation de violence de façon imaginaire ou dans une mise en scène de BDSM, évidemment consentie, etc. Finalement, c'est vraiment, pour moi, un jeu thérapeutique presque. C'est-à-dire que il y a des fantasmes, parce que en fait, le fantasme, c'est ça que je voudrais dire, c'est que pour moi, il manque des mots. Il manque des mots pour être plus précis sur ce que c'est que le fantasme. Il y a plusieurs sortes de fantasmes en réalité. Et c'est vrai que dans la culture populaire, quand tu lis des magazines féminins, où on va dire « quel est le fantasme ?» Voilà. Nicole nous raconte son fantasme qu'elle a réalisé avec Jean-Jacques. Ils ont été dans une boîte échangiste et c'était merveilleux, Nicole et moi. Bon, pourquoi ? Non, mais c'est vrai que ça peut être ça, un fantasme. Un fantasme, ça peut être quelque chose qui est en fait un désir que tu ne t'autorises pas à réaliser parce que la société, parce que ça ne se fait pas, parce que c'est pas dans les codes, voilà. Et donc, peut-être que ces fantasmes-là, il est bon de pouvoir les vivre, les passer, enfin voilà, qu'il y ait un passage à l'acte, parce qu'en fait, ce sont des désirs. Mais en fait, moi, les fantasmes dont je parle, c'est vraiment un autre, enfin, c'est pour ça qu'il devrait y avoir un autre mot, en fait. Parce que les fantasmes dont je parle, c'est des fantasmes qu'il ne faut surtout pas réaliser. Et je dis pas que c'est simple, c'est-à-dire que, je fais vraiment, je propose en tout cas de dissocier de manière absolument claire et radicale désir et fantasme, parce que justement, je pense que c'est pas du tout la même chose. Et il y a une confusion qui est faite, mais à mon avis qui est faite aussi parce que la culture pédocriminelle et la culture du viol veut que les personnes sexisées fassent cette confusion. C'est tout est fait pour continuer à abuser les personnes qui l'ont déjà été, etc., et ou qui le seront potentiellement. Alors, je ne dis pas que c'est simple de faire cette différence-là. Déjà parce que nos fantasmes évoluent, nos désirs évoluent. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire à 20 ans et qu'on aura peut-être envie de faire à 40. Donc, c'est pas des catégories comme ça, hermétiques, où il y a une petite clé et c'est très simple de dissocier les deux. Et par ailleurs, ce que je raconte dans le livre, c'est que quand je trouve ce fantasme, donc où je remets en scène cette situation, donc c'est un box en réalité, c'est un endroit où je monte à cheval, et donc c'est le prof d'équitation qui me coince dans ce box, on va dire, et donc qui est comme une cage. Quand je trouve ce fantasme et que je vois comme il est opérant, en fait, sur moi, pour moi, j'ai un moment où c'est tellement fort, l'excitation est tellement forte, que je me dis, il faut que j'y aille, il faut que j'y retourne, il faut que je le vois, que je baise avec lui, qu'on n'en parle plus. Enfin, en fait, ça m'excite trop, c'est sûr que c'est... Donc moi-même, à ce moment-là, je fais une confusion entre mon fantasme et mon désir. Et à un moment, je me dis, non, en fait, parce que je crois que si je le revois, je vais surtout avoir envie de lui péter la gueule, voilà, ou de lui faire un procès, ou je sais pas. Mais en tout cas, sûrement pas de coucher avec lui. Mais c'est pas évident. Et donc, en fait, c'est que soi-même, c'est que, tu vois, et chacun est différent, chacun est différent, et on doit trouver où est cette limite. Mmh. En acceptant aussi qu'elle puisse bouger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des fantasmes, il y a une catégorie de fantasmes, alors je ne sais pas quel nom il faut leur donner, mais qui ont cette fonction de reprendre le pouvoir sur ces violences qu'on a vécues. Et donc, ces fantasmes-là, c'est pour ça aussi que j'ai écrit le livre, c'est pour dire il ne faut pas culpabiliser de les avoir ou pas vouloir à tout prix les rééduquer. Parce que autant je trouve que c'est très important de rééduquer son désir, c'est-à-dire de lutter contre l'homophobie, la transphobie, le validisme, la grossophobie, le racisme qu'on internalise malgré nous, parce qu'on est dans une société qui est organisée comme ça, sur toutes ces dominations. Et ça, il me semble que c'est très intéressant d'ouvrir un peu tout ça et de pouvoir désirer une personne parce qu'elle est mortelle et sans mettre des gens de côté d'office parce qu'ils ne seraient pas dans un critère qui serait le critère de les gens qu'il faut désirer, on va dire. Mais les fantasmes, Bon, après, encore une fois, c'est chacun a ses propres voies de guérison. Et voilà. Et donc, il y en a tellement que moi, j'incite personne à se mettre au BDSM si les gens qui font du sexe vanille, c'est super, je suis très content pour eux s'ils sont bien. Enfin, voilà, je suis pas en train de dire il faut faire ci ou ça, pas du tout. En revanche, les gens qui ont ces fantasmes de violence ou qui ont un attrait pour la pornographie violente, alors c'est sûr que ça pose le problème de la fabrication, des conditions de fabrication de ces images. Mais en tout cas, disons, sur la littérature pornographique, donc qui n'engagerait pas l'exploitation d'êtres humains, pourquoi pas ? Pourquoi pas cette violence ? Peut-être que la laisser surgir à ce moment-là, ou soi-même élaborer des scénarios comme ça, c'est un moment où on peut vraiment reprendre le pouvoir, souffler, et donc se libérer, même si... comme je le dis à la fin du livre, c'est un peu comme un ruban de Möbius pour les Lacaniens, c'est-à-dire un mouvement comme un 8, le 8 de l'infini, où rejouer ses fantasmes me libère et en même temps m'enferme, puisque du coup c'est le seul fantasme qui est aussi efficace, donc j'en ai pas d'autres, donc je suis dedans, et puis en même temps, je reprends le pouvoir aussi avec cette idée d'identification à l'agresseur, etc. Donc, c'est pas simple. Moi, j'ai pas de solution, je le dis d'avance, parce que parfois les gens me demandent à la fin. Je n'ai aucune solution. On peut que les trouver soi-même, mais en tout cas, il me semble que pouvoir se débarrasser de la honte et comprendre la fonction de ces fantasmes ou de cette littérature ou de cette pornographie et ne pas la dévaloriser me semble intéressant.
Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est tout le principe des chemins de fantasmes, slash les chemins de désir. Ouais. Donc ça, c'est une notion dont j'avais déjà discuté avec Claire Richard, qui a fait un livre il y a déjà quelques temps, et il y a un podcast sur ce titre-là, Les chemins de désir, qui, en fait, elle a 8 ans, elle tombe sur Histoire d'eau, je crois. Enfin, voilà, donc cette scène où les femmes... alors, à chaque fois, j'oublie l'art d'être encordée, attachée.
Le shibari.
Merci. Et donc, elle tombe là-dessus. Tout de suite, un membre de sa famille, en fait, arrive dans la bibliothèque et lui dit « Mais c'est pas pour toi, tu dois ranger. » Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que toute sa vie, jusqu'à la trentaine où elle va commencer à se poser la question, elle va avoir ça comme référence. Ouais. C'est l'image de son chemin de désir. Son désir est arrivé à ce moment-là. Ouais. Et donc, en fait, ça m'a fait évidemment tout de suite penser à la référence, je trouvais, était en ping-pong intéressante, puisque on a ton chemin. Ouais. On va vraiment passer avec toi de l'enfance à l'adolescence, de ce jeu de l'hétérosexualité que tu vas jouer quand même pendant longtemps. Donc, on comprend ce truc de dire « Ok, donc j'existe parce qu'un homme plus âgé me regarde ». Et en même temps, je n'aime pas du tout cette sexualité, donc il va falloir que je trouve des astuces pour m'en sortir. Mmh. Et c'est quoi ? C'est les rêves, en fait. Et ça, cette partie-là, elle est quand même... on parle beaucoup dans les traumas, dans les expériences comme ça, d'expériences dissociatives, d'essayer de s'en sortir, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ce passage-là, sur tes rêves d'amour avec des filles, de beauté, de bienveillance, j'ai trouvé que... Parce qu'il est parfois difficile à lire ton livre, en fait. Il y a des choses qui peuvent rebondir, il y a des violences, en fait, qu'on voit encore arriver toujours, et donc ça peut rendre rageux. Et donc, ce petit endroit-là, de se dire qu'en fait, tu te forçais à avoir une vie conventionnelle hétérosexuelle, et en fait, dans ta tête, t'avais déjà mis en place tout un chemin de sauvetage lesbien.
Ouais.
Et ce qui va te permettre après... en fait, de réaliser, pendant un temps en tout cas, ta vie en lesbianisme, avec une sexualité avec une femme, sans avoir tout de suite, il me semble, besoin d'aller plus loin.
Ouais.
Mais tout ce petit chemin-là, en fait, il permet aussi peut-être d'embarquer d'autres personnes dans ton récit qui était très propre, et tu vas vraiment le cadrer en disant attention, ça n'engage que moi, en fait. Hein. Mais parce que ça peut décontenancer, et en même temps, de se dire qu'en fait, on a parfois en nous déjà, en fait, des choses qui nous précèdent pour nous mettre sur la voie de quelque chose.
Ouais, complètement. C'est un peu ce que je voulais dire aussi quand je dis qu'il y a deux catégories de fantasmes, et moi-même, je l'ai expérimenté. Puisque bon, il y a évidemment une relation entre le fantasme et le manque et l'absence. Donc, l'imaginaire permet de combler quelque chose qu'on ne vit pas. Et clairement, quand moi je commence à être amoureuse à l'époque de filles, alors que je m'autorise pas encore à vivre mon homosexualité, il y a évidemment mes fantasmes à l'époque sont extrêmement connectés à mon désir. C'est-à-dire qu'il y a un continuum absolu entre mes fantasmes, mon désir et plus tard ma sexualité. C'est-à-dire que ce que j'imagine, c'est vraiment ce que je voudrais faire. Et puis finalement, bah, quand je le fais, c'est comme dans mes fantasmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est très comme ça. Il n'y a pas de rupture, en fait. Et finalement, d'ailleurs, à l'époque, quand je commence ma vie de lesbienne, out, etc., en discutant avec des copines hétéros, je me rends compte que j'en ai plein qui ont des fantasmes lesbiens ou qui regardent du porno lesbien. Alors que moi, tu me mets un porno lesbien, mais je m'endors. Enfin, je veux dire, c'est ne me fait aucun effet puisque je l'ai déjà chez moi. Enfin, je le vis en vrai, c'est en plus quand même moins pourri. Enfin, mais même un super porno queer, tu vois, enfin, je m'endors. Je sais pas comment dire, ça ne m'intéresse pas puisque c'est quelque chose auquel j'ai accès. Et donc, et alors que mes copines hétéros qui regardaient du porno lesbien, entre guillemets, enfin, même pas en cachette, mais c'est pour moi, c'est pas qu'elles étaient en train de refouler leur homosexualité. C'est qu'elles étaient nécessairement excitées par quelque chose qu'elles n'avaient pas. Et que regarder une scène hétérosexuelle alors qu'elles-mêmes le vivaient, bof, un peu chiant. Donc, elles vont aller sur autre chose. Et comme j'avais aussi plein de copines lesbiennes qui me disaient « Ah bah moi, je regarde du porno gay ». Et je comprenais, en fait. Bah oui, c'est, tu vois, bon, enfin, je vais le dire un peu crûment, mais t'as pas de bite, tu regardes, oh là, tout le monde a une bite, c'est génial. Et toi, tu le vis pas, et t'es là, waouh, ça doit être super, quand même, c'est hyper excitant, toutes ces bites et tout. Donc, enfin, je veux dire, on peut comprendre une certaine logique, voilà, d'aller chercher l'absence, entre guillemets. Et donc, une fois que je suis dans ma vie sexuelle active et qu'en effet, il n'y a plus du coup cette nécessité de la fantasmer puisqu'elle est ma réalité, alors l'imaginaire commence à aller chercher d'autres choses. Et notamment dans la pornographie, comme je la raconte, je mets tout sur le dos de Virginie Despentes. Vraiment, parce que je pense que elle, on ne peut pas l'attaquer. Donc voilà, elle me pardonnera, j'en suis sûr. Mais c'est vrai que quand je lis King Kong Theory, il y a un long passage que je cite dans le livre où elle dit à quel point en fait, on ne veut pas trop se confronter au porno parce que ça vient de nous dire des choses de nous qu'on n'a pas forcément envie de voir, de savoir, à savoir ce qui nous excite et qui n'est pas forcément joli. Et c'est vrai que quand je lis ça, moi-même à l'époque, j'ai été confronté au porno un peu comme tout le monde de ma génération, je dirais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet, où je suis très très vieux. Et donc, on tombait parfois sur le porno du samedi soir sur Canal+, pour ceux qui avaient un abonnement. Donc, c'était wow, un truc de dingue. Ou dans un hôtel, il y avait le câble. Bon. Donc déjà, c'était des événements exceptionnels. C'était pas du tout comme aujourd'hui. Il suffit de cliquer en deux secondes, on tombe sur des millions d'images pornographiques. Et donc, je voyais bien que déjà avant même de lire King Kong Theory, il y avait quelque chose un peu de l'ordre de la dissociation, c'est-à-dire que j'étais que dans le jugement, et comme je pense comme plein de gens, où tu dis « Ah, c'est vraiment nul, ah ouais, non, vraiment, ils jouent trop trop mal », comme si on attendait des acteurs qui jouent hyper bien, qui fassent une performance pour les Oscars, « Ah ouais, non, vraiment, les décors sont horribles, et puis en plus, elle a des faux seins », et puis enfin, en fait, tu te fais une espèce de liste pour garder à distance cet objet qui est vraiment nul, et en fait t'es quand même super excité alors que tout est nul entre guillemets, en tout cas dans tes critères. Et donc t'es là genre, ah c'est bizarre, pourquoi déjà un, j'ai besoin à ce point là de me dire que je déteste ce que je vois, que c'est nul, que c'est vraiment mal fait, que tout est pourri, alors que quand même ça provoque une émotion très forte, puisque une excitation sexuelle c'est pas rien quand même, enfin c'est pas être excité comme ça par n'importe quoi en deux secondes. Donc quand je lis en effet King Kong Theory, je me dis mais oui c'est vrai, Despentes a raison, en fait il faut pas mépriser cet endroit-là absolument. Après encore une fois je dissocie bien les conditions de fabrication et les images elles-mêmes et ce qu'elles peuvent activer en nous, hein. Mais en tout cas à ce moment-là moi je suis pas aussi déconstruit, donc je me pose moins ces questions et on n'est pas encore aussi au courant des conditions de fabrication, et encore une fois même à l'époque elles sont moins mauvaises je dirais que maintenant. Donc je me dis bah tiens, je vais m'exposer à des images pornographiques comme ça, un peu au hasard, c'est-à-dire en allant regarder et tout, là, à ce moment-là, pour le coup, il y a Internet, et voir ce qui m'excite pour essayer de comprendre qui je suis, entre guillemets, à l'endroit de ma propre sexualité, pour me connaître, en fait. Parce que oui, pourquoi mépriser ça? C'est intéressant aussi de savoir ce qui nous excite. Donc, je vais un peu au hasard, bon, voilà, il y a des trucs qui me font aucun effet, d'autres oui et tout. Et donc, je me lance, en fait, dans cette espèce d'enquête, donc bien avant d'écrire ce livre, c'est-à-dire c'est quelque chose plutôt dans ma trentaine. Et donc, je me rends compte progressivement à quel point les scènes de domination et d'une, voilà, d'une certaine forme de violence sont vraiment agissantes, quoi. Et je me dis, ah waouh, c'est ok, d'accord, c'est bizarre. Et tout d'un coup, je comprends aussi que finalement, cet endroit qui est censé être le plus intime, le plus personnel, le plus privé, parce que l'imaginaire sexuel, enfin, ce qu'on imagine quand on fait l'amour ou même quand on se masturbe, quand on est seul, on n'a absolument aucun... Enfin, il n'y a aucune injonction à penser à ci ou à ça. Autant les pratiques sexuelles, elles sont extrêmement... voilà, on se prend des injonctions toute la journée, enfin, surtout quand on est hétéro, à comment il faut baiser, comme ci, comme ça, machin. Mais les fantasmes, très peu. Donc, ça semble être un endroit de liberté, un endroit intime. Et en réalité, ce que je découvre, c'est que il n'y a rien d'aussi peu intime que ma libido. Et que, en fait, même s'il y a des variantes et que, voilà, en fait, je vais être excité par des mises en scène de domination, mais y compris, voilà, d'hommes avec des femmes plus âgées, sur la question raciale aussi, je peux être excité par, des hommes noirs qui baisent une femme blanche, avec la question de la classe, les prolos qui baisent une bourgeoise, et tu te rends compte tout d'un coup qu'en fait, t'as été, mais, labouré, en fait, par cette culture-là, et ces dominations-là, au point que finalement, leur violence, est tellement insupportable que tu n'as pas tellement d'autres possibilités, enfin ton cerveau en tout cas, pour les supporter que de les érotiser. Et donc je me dis, tiens, c'est fou, cet endroit que je croyais si intime ne l'est en fait absolument pas. Et la pornographie vient nous raconter ça. Et par ailleurs, je me mets à émettre l'hypothèse qu'il y a quand même une relation au trauma, puisque je me rends compte que quand... comme je raconte l'anecdote dans le livre, j'ai une partenaire qui me montre un site, bon, moi, j'y connais rien, elle me montre un site, voilà, un peu trash et tout, et je vois un porno vraiment avec une scène très très dure, et elle m'excite pas du tout sur le moment parce que c'est trop dur pour moi, tu vois, on a tous nos petites limites, à un moment, ça disjoncte, quoi. Donc là, ça disjoncte, et en fait, j'y repense, et plus tard, je repense à cette scène, et finalement, juste en l'imaginant, je finis par être excité en repensant aux images. Et donc, progressivement, c'est comme si je m'habituais à elle, en fait. Il y a quelque chose voilà, où je venais comme avec une bête sauvage. et progressivement, j'ai envie de regarder ces images à nouveau. Et cette fois, je suis excité par ces images. Et donc, j'ai mis l'hypothèse qu'en fait... ce qui me traumatise va être aussi ce qui va m'exciter. Et donc, quand tu regardes du porno, c'est là que tu te dis à un moment que tu veux juste arrêter parce que ça te met dans un circuit infernal, comme tu ne sais pas à l'avance ce que tu vas voir, où tu te retraumatises éternellement. Et pour supporter ce traumatisme, tu érotises ces images. Et donc, cette excitation vient en fait comme soigner ces micro-traumas, ce que j'appellerais des micro-traumas, et aussi digérer toute cette culture du viol, etc., dans laquelle on baigne. Et je suis pas sûr que les hommes y échappent, les hommes cis y échappent non plus. Ça, je sais pas. En tout cas, justement, ça se joue différemment pour eux. Mais donc, progressivement, je me rends compte que il y a ce que j'appelle la poésie du porno, ce qui peut faire bizarre à la lecture. C'est-à-dire que je me rends compte que ce qui fait que vraiment, quand je regarde une petite scène comme ça, je vais être excité, c'est comme tout d'un coup le surgissement du réel. C'est-à-dire un détail, un regard, un trouble qui semble vrai, en fait. Que ce soit un gémissement, un micro-détail, mais qui me fait vriller. Je me dis, tiens, c'est quoi ce truc de détail? Et en fait, à force d'y réfléchir, je me rends compte que ces détails, c'est pas juste des détails, c'est le réel qui s'invite. Et là, je vois, là, pour le coup, pendant que je fais cette enquête, que j'écris le livre, le rapport Pornhub 2022 sur les tags, donc les plus recherchés. Et je vois qu'il y a le tag reality, donc réalité, qui a augmenté de 75%. Et je me dis, bah, ça, c'est quand même extraordinaire, parce que autant taper MILF ou anal, je vois, enfin, je comprends l'idée, mais reality, c'est quand même bac plus 12, tu vois, c'est fileux du porno, t'es là. Tiens, de réel. Moi, j'irais pas, enfin, tu vois, après, tu peux mettre ça sur porno amateur. Et en fait, tout d'un coup, tout ça prend du sens. Et c'est là que je fais le lien avec mon propre réel, que je décide d'arrêter de regarder du porno et que je cherche en moi le fantasme qui va être excitant et que je retombe sur ce souvenir. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ce cheminement qui m'amène finalement à ce fantasme-là et que je reçois avec sidération. Je dis, ah, c'est fou, je suis excité par un truc qui en fait était quand même pas cool et que j'ai vécu. Et donc, je comprends que en fait, c'est une façon pour mon cerveau de traiter finalement un trauma, même si j'avais dit que j'étais pas du tout traumatisé et que tout allait très bien. Peut-être, c'était un peu plus que ça. Et c'est une reprise de pouvoir.
Mais cet endroit de la gentilité... Par tout ce process-là que tu viens de nous expliquer, il est quand même assez... Oui, en effet, je peux comprendre l'endroit de sidération, parce que de devoir s'entendre, en fait, arriver à la conclusion de « c'est ça, en fait, qui attise mon désir », c'est ça, alors qu'en fait...
Enfin, mon excitation.
Ton excitation,
désir,
pardon. Et, alors qu'en fait, on part sur le papier d'une situation violente, ouais. D'abus, enfin, de quelque chose d'impensé, enfin, d'impensable, en fait, ouais. De lier. Le process d'accepter, Parce que tu termines quand même ton livre avec cet endroit de... Ok, la situation n'est pas non plus la plus cool qu'on puisse imaginer en termes de conclusion. Enfin, non, évidemment que j'aimerais que ce soit autre chose qui m'excite. Mais pour autant, on sent que tu as quand même fait une paix avec ça, en fait, que tu as accepté d'une certaine manière ce qui t'avait constitué, quel était ton chemin, etc. Et que c'est peut-être maintenant que les choses seront peut-être plus faciles à vivre, que ce sera moins imposé, ou en tout cas que tu vas pouvoir, en effet, par cette agentivité-là, on imagine, comme ça a pu évoluer déjà beaucoup dans tout ton parcours, bah, que ça amène à encore autre chose.
Oui, de toute façon, je pense que c'est des endroits qui sont toujours en mouvement. Après, ce qui me semble important, en tout cas pour l'instant, c'est de pouvoir parler de ça. Finalement, c'était surtout ouvrir la conversation, ce que je voulais faire. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce truc-là et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont ces fantasmes-là et qui culpabilisent. Et surtout chez les personnes sexisées, parce que voilà, chez les hommes cis-hétéros, c'est encore autre chose. Mais donc, donc, je voulais qu'on puisse aborder ce sujet comme un sujet politique, avec un enjeu politique. Et aussi, en effet, comme je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les thérapies cognitives, le MDR, tu vois, le MDR, c'est quand tu as vécu un traumatisme ou que tu peux faire une thérapie courte comme ça, et c'est juste un mouvement oculaire comme ça, où tu suis comme ça, pour finalement se débarrasser de l'émotion ou la panique qui est liée à un souvenir traumatique. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de similaire, c'est-à-dire que pouvoir en parler... donc que ce soit plus une angoisse, un tabou, que du coup bah finalement l'excitation, je pense au bout d'un moment finit par se vider de sa substance, parce que il y a plus la dimension transgressive aussi. Alors donc c'est en parlant, en discutant ces sujets-là, et en tout cas en pouvant se déresponsabiliser, mais pour de vrai, c'est-à-dire se dire c'est pas de ma faute si j'ai ces fantasmes-là, mais c'est parce que j'ai subi ces violences ou senti la menace de ces violences, et donc je n'ai pas vraiment eu d'autre possibilité que de les érotiser pour survivre psychiquement, alors déjà ça permet de souffler. Et en réalité, est-ce qu'il faut, encore une fois, tout déconstruire, tout rendre, voilà. Bon, moi je suis très vraiment je suis le premier à encourager le post-porn, voilà, ou des films comme ça queer, où des gens vont faire l'amour avec des arbres ou je sais pas, ou mais enfin vraiment, je trouve ça trop chouette en fait qu'il y ait cette cinématographie là, cette recherche. Moi j'encourage ces films, mais après c'est pas des films que je vais regarder pour être excité, donc et s'il y en a qui y parviennent, c'est tant mieux. Mais je suis pas, enfin, à partir du moment, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des relations saines. C'est de sortir de la domination, de toutes les dominations, autant que possible, en tout cas, dans notre vie quotidienne, que ce soit à l'endroit de la relation amoureuse, de la sexualité, de l'amitié, le lien social, etc. Donc, mon objectif, c'est ça. Bon, je dis pas que j'y arrive, parce que je pense que c'est un peu galère d'y arriver, mais en tout cas, c'est un objectif, voilà, de vie, qui me prendra sûrement toute une vie, et peut-être même sans y parvenir à la fin de ma vie, mais en tout cas, ça, c'est important pour moi, parce que ne pas blesser les autres, être dans des relations saines, de soins, d'amour, etc., c'est quelque chose d'important. Par contre, la violence, elle est là, elle existe, et il y a bien un endroit, un moment où il faut la traiter. Et donc, si ça doit être l'endroit du fantasme, qui n'implique pas d'autres êtres vivants, alors pourquoi pas ? Pourquoi pas même lui laisser de l'espace et s'autoriser cet espace-là, puisque voilà, il ne blesse personne, encore une fois, et qu'il permet de faire quelque chose de cette violence qui, à mon avis, est quand même liée. Dans un documentaire que je regardais récemment sur les masculinités, je crois que c'était un psy d'ailleurs, il disait le sexe, c'est pas forcément de la violence, mais c'est de l'agressivité. C'est-à-dire que l'agressivité, mais ce qui est aussi la pulsion de vie, enfin, nous constitue cette violence qui est là partout, tout le temps, à une échelle plus ou moins grande, nous constitue, et donc il faut bien qu'on puisse en faire quelque chose. Donc soit on peut s'inscrire à la boxe, on peut faire plein de trucs avec cette violence, qui est aussi une force de vie, mais pourquoi pas avoir un imaginaire sexuel qui la mette en scène, justement parce que, encore une fois, on est nous-mêmes le metteur en scène de ces histoires, et on est dans une stratégie presque de soin.
Oui, ça me fait penser, on a déjà de temps en temps entendu ça au niveau de la littérature, de se dire qu'au final, si les féminismes se jouent dans la violence, dans les mots, c'est bien parce que c'est l'espace, en fait, où on peut se permettre d'être violente, de se venger, de faire plein de choses qu'on ne se permettrait pas et qu'on ne voudrait pas non plus faire dans la vie. C'est une ouverture intéressante.
Ouais. Et puis, je voulais aussi parler du BDSM, en fait, dans le livre. Mais je voulais vraiment aussi sortir de cette image caricaturale du SM. Pareil, dans la culture populaire, dès que tu vois un film, le SM, c'est toujours le mec super puissant. Puis d'un coup, boum, on ouvre la porte et il est à quatre pattes en train de se faire fouetter par une fausse infirmière. Bon, déjà, pourquoi pas? Il fait bien ce qu'il veut, ce monsieur. Et par ailleurs, il me semble que c'est un peu réducteur par rapport au BDSM qui se joue de plein de manières. C'était aussi ça que je voulais partager, c'est que de finalement juste raconter des histoires à quelqu'un, c'est déjà du BDSM, c'est déjà de la mise en scène. C'est-à-dire, c'est le fait de décoller du réel, c'est-à-dire de pas être justement dans une sexualité où on est pleinement dans l'instant et dans les sensations, mais où il y a un imaginaire qui vient se superposer avec une réalité qui est tout autre. Et j'aime bien donner l'exemple de Marianne Chargois, qui est une travailleuse du sexe qui fait de la domination médicale, qui est spécialisée, que j'avais interviewée dans mon podcast La politique des putes. Et franchement, je vous encourage à réécouter son témoignage, parce que c'est hyper beau ce qu'elle dit et comment elle parle de finalement presque ses patients plutôt que ses clients. Et c'est souvent, elle dit que c'est souvent des hommes qui ont été à l'hôpital beaucoup, qui ont été dans des situations de souffrance physique très fortes, qui ont vraiment passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, à des âges où vous pouvez pas forcément comprendre cette souffrance-là, parce qu'elle est incompréhensible, et qui du coup n'ont aussi pas eu d'autre choix que de l'érotiser. Et donc à l'âge adulte, qui ont besoin de rejouer de se retrouver ces sensations, d'avoir des pratiques qui sont des pratiques douloureuses, mais qui ont existé dans leur enfance et qui, comme tu le racontais sur ton ami, où ils ont fixé quelque chose de l'érotisme. Et donc finalement, oui, c'est presque thérapeutique, c'est-à-dire que c'est une sexualité qui peut paraître étonnante ou choquante, où on se dit ah là pourquoi, hein. Et en fait, il faut jamais sous-estimer la richesse aussi du BDSM et de ce que ça vient soigner. Donc ça, c'est la première chose. Et la dernière chose que je vais dire, avant que ce soit trop tard, parce que j'ai un chapitre là-dessus, et je pense que c'est aussi le sujet peut-être le plus important quand on parle de la honte, même s'il est court, c'est la question des phobies d'impulsion. On appelle ça phobie d'impulsion ou pensée intrusive, on en parle un peu plus maintenant. Où là, ça serait presque, il faudrait encore un troisième mot pour des fantasmes négatifs, c'est-à-dire la peur de soi-même devenir un agresseur. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a traversé. Et juste après que j'ai vécu ces situations de grooming, où en fait, je pense que j'étais plus traumatisé que ce que je voulais bien admettre, et où je me suis retrouvé à garder des enfants. Et j'ai eu un moment, j'ai cru que j'avais du désir pour l'enfant que je gardais. Et j'ai été traumatisé, évidemment, terrorisé. Et j'ai du coup porté longtemps cette peur d'être pédophile. Alors, pas pédocriminel, parce que je savais que j'avais une barrière morale qui fait que je ne passerais pas à l'acte. Mais disons que dès que je me retrouvais dans une situation où j'étais avec un enfant que j'aimais bien, j'avais comme une espèce de peur qui me venait comme ça, de oh, peut-être que... En fait, et donc, c'est une peur tellement forte, et où il y a pour le coup un tel stigmate et tellement de honte et tout, tu peux tellement pas raconter ça aux gens, que du coup, tu peux pas t'en défaire, tu peux pas t'en débarrasser. Et c'est seulement récemment, en discutant avec un ami thérapeute qui a beaucoup de personnes, de patients qui ont vécu des violences d'inceste ou pédocriminelles, qui m'a dit, mais tu sais, presque tous mes patients et patientes ont ça s'appelle des pensées intrusives, et en fait, c'est normal. C'est aussi une conséquence du trauma. Et enfin, tout d'un coup, d'avoir cette information qui, quand même, là, commence un peu... On parle aussi de ça pour les mères qui viennent d'accoucher et qui ont peur de tuer leur enfant et qui développent vraiment des espèces de stratégies, genre à cacher des couteaux ou... parce qu'elles ont vraiment... Et en fait, évidemment, elles ne passent pas à l'acte. Mais il y a une telle honte, pareil, que c'est très compliqué à énoncer. Alors qu'en réalité, c'est presque un instinct de protection. C'est-à-dire, t'as une telle peur parce que toi, en fait, tu sais... ce que ça fait, en fait, que tu veux tellement pas le reproduire que du coup tu développes cette peur qui est presque protectrice, une peur protectrice. Et ça, c'est pareil, en fait, je me dis, mais qui mérite de vivre pendant des années avec cette angoisse terrible qui est quasiment impossible à dire, alors que, en fait, dès que tu sais que c'est juste encore une fois un process du cerveau pour supporter en fait autre chose. Moi, finalement, c'était peut-être ma manière de vivre avec ce trauma, et plutôt que de me dire oh là là, c'est ce qui s'est passé avec machin et trucs, ça m'a traumatisé, je me suis dit non, rien à foutre. Mais par contre, je suis terrorisé à l'idée de potentiellement être pédophile ou pédocriminel, j'en sais rien. Et ça, je trouvais ça important d'en parler aussi, juste parce que pareil, une fois que tu le mets sur la table, ça se vide complètement, et puis il n'y a plus de problème, en fait, et tu sais que c'est juste une phobie, comme t'as peur des araignées ou du vide, en fait, c'est toujours un autre sujet, en fait. T'as pas normalement... une souris, tu sais qu'elle va pas te manger, donc si t'as peur à ce point-là, c'est que tu vis autre chose qui peut pas se dire autrement. Et donc, je trouve que c'est... Bah pareil, j'avais pas lu grand-chose là-dessus. Enfin, en lisant après aussi Neige Sino, elle en parle brièvement dans son récit et ça m'a fait plaisir. Et en écoutant aussi le podcast ou peut-être Une nuit de Charlotte Pudlowski, que j'ai écouté après avoir écrit mon livre, j'ai entendu cette personne qui raconte exactement la même scène que je viens de vous raconter. Donc je dis, ah ouais, vraiment, tiens, je me suis fait chier à écrire ces quelques pages parce qu'en plus, il faut faire, bon, tu fais attention parce que tu peux pas te retrouver avec un hashtag aussi en pédophile le lendemain, tu vois, là tu fais une crise cardiaque directe. Et donc, quand j'ai entendu, je me dis, ah, si j'avais écouté avant, j'aurais eu plus de facilité aussi à en parler. Donc ça, c'était un petit peu, ça faisait un petit peu peur. Mais maintenant, je suis content de l'avoir fait parce que je pense que c'est tellement, en fait, rien. Et que, comme disent tous les thérapeutes, ceux qui passent à l'acte ne vont pas chez le psy et ne s'angoissent pas là-dessus, juste ils passent leur BAFA et voilà. Donc, non, pardon, c'était pas drôle. Non, mais je veux dire, oui, juste ils vont dans leur famille. Non, mais je veux dire, malheureusement, c'est comme ça. Les violences, elles sont partout. Voilà, je suis désolé, je fais un peu de l'humour noir, mais voilà, en tout cas, les gens qui s'angoissent là-dessus, s'ils m'écoutent, si elles m'écoutent, rassurez-vous, vous n'êtes pas les personnes qui passent à l'acte.
Pour compléter, parce que tu as déjà parlé de quelques ouvrages fondamentaux sur ces sujets, mais je voudrais aussi attirer l'attention sur le Politiser l'enfance qui vient de paraître chez Burnout et qui va à différents endroits de narration. En fait, au final, je trouve assez bien agrémenter toutes tes expériences et tout ce que tu nous expliques, et notamment en effet sur ce lien à l'enfance, etc. Bon, évidemment, puisque c'est Politiser l'enfance. Voilà. Sacré travail dirigé par Vincent Romani. Vous avez un précédent épisode du podcast sur ce livre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour, alors j'ai envie de dire ce travail, parce que c'est vraiment ça, ce travail sur toi. Et d'avoir, parce que je vais quand même continuer à assumer et te dire, eu le courage de l'écrire. Parce que je pense que ça ne doit pas être facile de le porter non plus face à tout le monde. Pour autant, il fait bouger les lignes, ton livre, et il permet, je suis certaine, à beaucoup de personnes de se tranquilliser, je pense.
J'espère, c'est le but.
Merci beaucoup, Océan.
Merci beaucoup.
Alors, heureuse, vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie d'Océan, à l'occasion de la publication de son ouvrage « Dans la cage, une autobiographie socio-pornographique » dans la collection « Fauteuse de troubles » des éditions Julliard. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec La Franchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.